Merci Yvan, l'équipe musicale, l'école L'Eau Vive. Je sais que c'est beaucoup de sacrifices pour vous, là, les gens de l'école L'Eau Vive, pour vous déplacer ici ce matin. Les transports, les pratiques en bas, montent en haut, se placent, déposent des instruments. Mais votre présence est vraiment appréciée. Hein, puis merci d'être là. Et puis je vais prendre le temps de dire à notre assemblée que c'est un ministère qui est chez nous. Hein, c'est dans la ville de Québec. C'est bien apprécié, et puis il y a malheureusement un adage qui dit que nul n'est prophète en son pays, mais qu'il n'en soit pas ainsi de ce ministère-là, de l'école L'Eau Vive. Et ce qu'on peut retenir certainement aussi de ces vérités qui sont ressorties, c'est l'importance des parents de s'impliquer dans la vie de leur enfant, de s'impliquer spirituellement dans la vie de leur enfant. Et l'école L'Eau Vive est un moyen qui peut être utilisé certainement pour faire une continuité avec l'enseignement spirituel aussi, avec l'enseignement académique. Et c'est une occasion pour nous aussi d'entendre ce qui se passe à l'école L'Eau Vive, puisqu'on a participé aussi à travers notre offrande d'action de grâce à donner un montant. Et puis, ça vous donne l'occasion d'entendre concrètement ce qui se fait, ce qui se passe, et puis d'avoir une forme de compte-rendu. Je vous propose, puisque ça fait déjà un certain temps qu'on est assis, je veux qu'on prie, que Dieu nous dirige dans sa parole, puis on va prier debout. Hein, c'est une bonne chose, on peut prier debout, ça se fait. On va prier debout que Dieu vienne nous éclairer dans sa parole, qu'il nous fasse du bien et qu'il vienne parler à chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin pour entendre parler sa parole. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on veut disposer nos cœurs, on veut disposer nos têtes à ta personne. On veut te rencontrer, on veut que ton esprit vienne mettre le doigt dans la vie de chacun d'entre nous. Là où on en a besoin, Seigneur, là où on a besoin de comprendre ce que tu t'attends de nos vies. Viens nous faire du bien, transforme-nous et que nos vies, Seigneur, soient de pas à pas, de progrès en progrès, dans la mesure, Seigneur, où on te ressemble de plus en plus. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à tourner dans Jacques 3. On a entendu des instruments de musique ce matin. Et pour jouer d'un instrument de musique, je peux vous dire que c'est pas nécessairement si évident de maîtriser un instrument de musique. Hein? Ça demande beaucoup de pratique, ça demande de la théorie, ça demande qu'à un moment donné, on va se tromper, puis là on arrête, là, whoop, le coup de baguette sur le lutrin, on arrête, on recommence, telle partie, ça marche pas, on recommence, voyons les trompettes, vous l'avez pas, on recommence, ok? Et puis là, hein, c'est difficile de maîtriser. J'imagine pour arriver à une médaille d'or, ben il faut de la pratique. Il faut de la pratique pour que les individus maîtrisent leur instrument, mais pour que l'harmonie maîtrise leur instrument, comme l'ensemble à cordes aussi maîtrise leur instrument. Pour maîtriser quelque chose, ça demande de la pratique, ça demande de l'effort, ça demande de la patience. Si même vous voulez chanter, le chant est quelque chose qui doit se maîtriser. Hein? C'est pas quelque chose que n'importe qui peut s'improviser. Chanteur, parlez-en à Camille, notre portier. ou bien maîtriser un art, hein? Si vous êtes peintre ou quel que soit l'art que vous voulez maîtriser, c'est le même principe. Il faut pratiquer, que ce soit un sport. On a les Olympiques ces temps-ci, hein. Si l'équipe de Hockey Canada est si bonne, c'est parce que à quelque part ils ont commencé jeunes et puis ils se sont voués à leur sport et ils maîtrisent bien leur sport, qui est peut-être même devenu un art en quelque sorte. La maîtrise de quelque chose demande des efforts, demande des sueurs, demande de la patience. Puis il y a quelque chose aussi ironique que ça peut sembler l'être, qui est difficile à maîtriser, puis c'est nous-mêmes. Notre propre personne, nos propres paroles. Vous savez ce que les Écritures disent? Regardez avec moi dans Jacques 3, on va regarder le verset 2. Ce matin, on va regarder les versets 2 à 12 de Jacques, mais juste commencer avec le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Il y a plusieurs choses qui font que on a de la misère à se maîtriser. On peut broncher de différentes façons. Et on pourrait, par exemple, parler de nos yeux. Il y a plein de choses qu'on va regarder qui nous font pécher puis qu'on ne devrait pas regarder. Il y a plein de choses que ça pourrait être, par exemple, nos mains ou nos pieds, des choses que l'on fait, des endroits où on va, où finalement on a péché, puis on n'aurait pas dû faire telle action. Ou bien nos oreilles, des choses qu'on écoute et puis qu'on ne devrait pas écouter, qu'on ne devrait pas alimenter en écoutant ces choses-là. Et on peut broncher de plusieurs manières, que ce soit nos yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, Mais il y a quelque chose encore plus difficile à maîtriser. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Broncher, de pas broncher en parole, c'est ce que Jacques va nous dire, c'est ce que Dieu nous dit, qui est le plus difficile à maîtriser. On peut maîtriser un sport, un instrument, maîtriser toutes sortes de choses, mais la langue, nos paroles, on aura continuellement de la difficulté à la maîtriser. Et là, si Jacques il parle de perfection, évidemment, on ne parle pas d'une perfection absolue, mais d'une maîtrise de notre être, qu'on va maîtriser notre personne, maîtriser notre être. Si on tient notre langue en bride, on va être une personne, que Jacques nous dit, qui tient tout son corps en bride, un homme parfait, ou qui est capable de se maîtriser. Ce matin, ce qu'on va voir, c'est que Dieu veut qu'on ait la maîtrise de soi-même. La maîtrise de ses paroles, là, l'aspect de nos vies qui est la plus difficile à maîtriser, nos paroles. Dieu veut qu'on la maîtrise. Mais une chose qu'on doit retenir, c'est qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Parce que tout seul, on n'en sera pas capable. Jacques, on en a parlé la semaine passée, il disait dans les versets précédents que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Il dit aussi au verset 26, quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques va en parler 8 fois dans son épître de la langue. Combien est-ce que c'est important? Et pour Jacques, si on est des croyants, on devrait avoir une foi authentique. Et une foi authentique va se manifester d'une façon cohérente avec la foi. Nos paroles est un exemple. C'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, ce qu'on dit va inévitablement révéler ce que l'on est. Et on avait regardé, je vais juste relire le premier verset. « Mes frères, qu'il n'en soit pas parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière, de voir l'avertissement que Dieu donne aux enseignants, de dire « Faites attention à ce que vous communiquez. » Premièrement, qu'il n'y ait pas un grand nombre, et faites attention à ce que vous communiquez. Et puis, je crois que cet avertissement-là, il est bien compris et interprété et appliqué dans notre assemblée. Je peux dire que on peut louer Dieu de l'enseignement. Et là, je suis pas en train de m'attribuer ce mérite-là parce qu'on est plusieurs enseignants parmi nous dans l'Assemblée, que ça soit, je les ai écrits pour pas les oublier, que ça soit, par exemple, l'école du dimanche, il y a plusieurs enseignants dans l'école du dimanche, dans la jeunesse, dans les bergeries, dans les groupes de dames, dans les groupes d'hommes, dans le centre Emmanuel, dans le culte d'enfants, dans le club de l'Arche, les prédicateurs aussi qui viennent, et j'espère que j'en ai pas oublié, mais je veux vous donner l'encouragement de continuer votre bon travail, de continuer ce désir-là qui doit être manifesté que vous avez de mettre les Écritures en avant-plan, avant toute chose. On disait que Dieu veut de nous des chercheurs d'or et des gens qui conduisent, des enseignants qui conduisent les gens vers des gisements d'or, hein, là où il y a vraiment la parole de Dieu, et je crois que c'est appliqué chez nous d'une façon qui est très appréciée parmi notre assemblée. Continuez votre bon travail, continuez d'être rigoureux de la vérité, et comme Paul disait, mais veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et je peux vous donner cette même encouragement-là aux gens qui sont de l'école Lovive. C'est une part d'enseignement aussi que vous avez auprès de jeunes, que ce soit primaire ou secondaire. Continuez votre bon travail, puis ce désir-là de communiquer les valeurs bibliques, qui fait partie certainement de votre mission aussi. 3 mises en garde que l'on voit ce matin à travers l'épître de Jacques dans les versets 2 à 12. Et ces 3 mises en garde-là, Dieu nous les donne pour qu'on soit allumé sur les dangers de nos paroles, les dangers de nos langues. Et là, ce qu'on va lire dans Jacques a un j'appelle ça des avertissements parce que c'est vraiment un ton négatif, si je peux dire. Il nous montre vraiment, il va nous exposer le danger des paroles. Tantôt, on pouvait apprécier le fait que, avec nos paroles, on peut bénir Dieu. On peut louer Dieu. On peut prodiguer des encouragements, de l'enseignement. On peut faire de bonnes choses avec la langue. Mais là, dans cette portion-là des Écritures, Jacques va nous donner 3 avertissements. des avertissements qui sont vraiment des lumières rouges et qui flashent. Et Dieu veut que tu sois maître de toi-même, et pour cela, tu dois comprendre la première mise en garde qui est donnée, que la langue a la capacité de diriger tout ton être. Regardez les deux premiers versets, en fait, les deux premiers versets de notre section, versets 2 et 3. On bronche de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. J'ai pas fait de l'équitation souvent dans ma vie, là. Je pense que j'en ai fait une fois ou deux fois, là. Mais je suis convaincu que si je peux être ici ce matin pour en témoigner puis que je suis encore vivant, c'est parce qu'il y avait un mort dans la bouche du cheval et que dans ma plus grande incompétence de diriger un cheval, je m'en suis sorti pas trop pire. Parce que on peut prendre le temps de brosser le cheval, on peut prendre le temps de peigner sa crinière, on peut prendre le temps de placer la selle, mais vous ferez l'expérience de placer la selle, de brosser le cheval, de d'y parler un peu, mais de pas de placer le mort dans sa bouche, de pas avoir de rein entre les mains, et là, d'y donner un bon coup de botte là qui pique là ses fesses pour voir comment est-ce qu'on peut le contrôler. On sera pas capable. Un cheval, il va partir et on sera pas capable de le contrôler. Et un cheval de 2000 livres, on sera pas personne d'entre nous assez fort pour lui dire « c'est assez, je t'arrête là, je mets les pieds à terre hein? ». Un cheval qui a pas de mort dans sa bouche, il peut être incontrôlable. Mais ce que le verset nous dit ici, ce que Jacques nous dit, c'est qu'avec cette petite pièce qu'on met dans la bouche du cheval, il dit « on contrôle ainsi le corps entier du cheval ». C'est le parallèle que Dieu est en train de nous faire avec nos propres paroles. La parole, notre langue, peut diriger tout notre être. Imaginez un navire. On peut en voir quelques-uns ici à Québec. Là, on a un port. Et on peut les imaginer le plus gros qu'on voudra. C'est sûr que chacun de ces navires-là ont un gouvernail ou une façon de se diriger. Quelle que soit la grosseur du bateau. Et enlever le gouvernail, et il va y avoir des problèmes. On aura beau avoir le meilleur capitaine que la Terre ait porté dans le paquebot, s'il n'y a plus de gouvernail, ils sont faits. Ils vont se planter dans un iceberg. On connaît l'histoire du Titanic, hein? Je ne sais pas si c'était le gouvernail, mais bref, ça n'a pas tourné assez vite. Notre langue, nos paroles dirigent toute notre être en entier. Nos paroles peuvent influencer tout ce que l'on est. Nos paroles sont issues de nos pensées. Jésus disait que ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. La langue ici, c'est vraiment le synonyme de, c'est nos paroles. Les choses que l'on dit, mais elles viennent d'où nos paroles? Elles viennent de notre pensée. Elles viennent de notre cœur. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Ce qui sort de nos bouches, ce qu'on laisse sortir de nos bouches, même Jésus disait que c'est ça qui souille l'homme. Ce qu'on laisse sortir de nos bouches. Si je pratique le mensonge, et puis il y a du mensonge dans ma vie que je dis aussi petit soit-il, ben, je veux quand même commencer à pratiquer ce que mon mensonge, je suis en train de dire par mon mensonge. Si je parle d'une manière immorale, ben, les dangers que ces paroles-là finissent que par devenir de la pratique concrète ou même de la convoitise dans mon cœur, ben, le danger est tout aussi évident, tout aussi près. Si je verbalise continuellement mon agressivité quand je suis au volant, par exemple, ou quel que soit l'endroit, éventuellement, on va devenir des personnes agressives, caractérisées par l'agressivité ou la violence. La parole nous dit que nos paroles peuvent diriger toute notre être. Juste faire quelques citations rapides d'un proverbe. « Celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. » Proverbe 21:3. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Proverbe 10:19. Je pourrais en citer plusieurs autres. Mais pourquoi est-ce que c'est si facile de pécher en parlant? La parole nous dit que la langue, nos paroles, peuvent diriger toute notre vie, tout notre être. Et si on est ce capitaine de bateau, imaginons on est capitaine de bateau d'un gros paquebot, on peut avoir plein d'occupations, hein? Je sais pas, là, j'ai jamais côtoyé un capitaine de bateau, mais on a peut-être du personnel à gérer. On a peut-être de l'administration à faire. On a peut-être de l'équipement à surveiller. on a peut-être bien des affaires qui sont extrêmement importantes. Est-ce que je peux négliger la plus petite partie du bateau qui est le gouvernail parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont très grosses et très importantes? Absolument pas. Si, comme je disais tantôt, on a un cheval, puis qu'on on prend soin de notre cheval, de notre gros cheval, de la selle, etc., puis qu'on néglige cette petite partie-là qui est le mort, ça va nous causer des problèmes. Dans nos vies, c'est la même application. Nos vies peuvent être remplies de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'activités. On bronche de plusieurs manières, puis on va s'attarder à plusieurs choses sur lesquelles on peut broncher. Mais Dieu nous dit, cette petite langue-là te cause bien du tort. Ces petites paroles-là peuvent diriger toute ta vie. Pas parce qu'elle est petite qu'il faut la négliger. Il faut faire attention. Faut pas négliger le poids de nos paroles. Si le Saint-Esprit contrôle cette partie des plus versatiles ou intraitables de notre être, combien plus le reste de notre être ne sera-t-il pas soumis à son contrôle aussi, au Saint-Esprit? Quand les paroles de quelqu'un exaltent Christ, honorent Dieu, puis édifient les autres, il peut être certain que le reste de sa vie est sainement spirituel. Et saine spirituellement, et puis vice-versa. Nos paroles peuvent diriger toute notre être. C'est le premier avertissement. Un deuxième avertissement, et je vais aller assez vite pour le reste. Le deuxième avertissement, c'est que Dieu veut que tu sois maître de toi-même. Mais pour cela, tu dois savoir que le deuxième avertissement, c'est que ta langue a la capacité de tout ruiner. Ça, c'est l'avertissement, c'est comme ce que Jacques le dit. Je vais juste vous citer un proverbe, Proverbe 16, 18. Ça dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de... » Au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on réalise ce qu'on vient de lire dans le proverbe? « La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits de votre langue que votre langue aura apporté. » À un moment donné, en 1871... Il y avait dans une étable une vache qui mangeait son herbe, probablement comme d'habitude, et puis se souciait peu de la vie des autres, hein, comme la vie d'une vache normale, là, j'imagine. Et puis, dans cette étable-là, il y avait une lanterne qui allumait, probablement parce que c'était le soir, et puis cette lanterne-là, il y avait du feu dedans, et puis elle allumait l'étable à l'intérieur. Et puis, cette vache-là, à un moment donné, a peut-être fini de manger, puis elle passait à côté de la lanterne, puis elle l'a fait tomber dans l'herbe, dans le foin. Et là, imaginez le reste. Hein? Le foin brûle, les tables brûlent, avec tout ce qu'il y a dedans. La ferme a brûlé, et puis 17 500 édifices ont brûlé, 300 personnes sont mortes, puis 125 000 personnes sont devenues sans-abri. Puis c'était le grand feu qu'il y a eu à Chicago, en 1871, à cause d'un petit feu qui était dans une lanterne pour éclairer. Ça, c'est le pouvoir dangereux que nos paroles ont. Regardez verset 5, on va lire verset 5 et 6. « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. » Elle est bien orgueilleuse, hein? « Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. » La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Est-ce que c'est une lumière assez rouge? Le feu qui est tout petit, qui peut enflammer une forêt. Et Jacques va donner cet avertissement-là, qui est un des plus forts dans les Écritures en ce qui concerne la langue, qui dit qu'elle est c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, puis étant enflammée par la géhenne. Nos paroles peuvent tout ruiner. Elles peuvent édifier aussi, certainement. Mais elles peuvent tout ruiner. Ça, c'est l'avertissement que Dieu nous dit. Si je dis je veux devenir maître de moi-même, puis que mes paroles sont aussi dangereuses que ça, est-ce que j'ai besoin que Dieu veille sur ma personne, que Dieu veille sur mes paroles, que Dieu veille sur ce que, finalement, encore plus loin, sur ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans mon esprit, dans mes pensées? Est-ce que je soumets ça à Dieu pour que ce qui va sortir de ma bouche n'ait pas une portée de ruiner, mais de faire du bien? Plein de couples se sont formés, hein, avec la langue, c'est-à-dire en parlant. Comprenez ce que je veux dire, OK? C'est-à-dire que j'aurais dû dire avec les paroles. Hein? Je me souviens quand j'ai rencontré ma femme, et là, elle me parlait, et puis elle me disait des choses intéressantes, je pouvais lui retourner les belles paroles, et là, tout à coup, oh, c'est le fun, et puis, hein, un couple s'est formé, et puis quand on s'est marié, on s'est dit avec notre bouche notre amour et nos vœux, et etc. Mais vous savez que ce pouvoir d'avoir créé l'amour, d'avoir créé un couple, est tout aussi dangereux que ces paroles peuvent même apporter le divorce dans un couple. La critique tue le couple. Les compliments peuvent alimenter cet amour-là dans un couple. Ça, c'est un exemple. Puis qu'on peut le vivre dans notre propre couple, de voir comment est-ce que ça nous fait du bien quand ma conjointe me dit des belles choses. Oui, elle les voit toujours, les choses que je manque. Elle les voit toujours, mes erreurs, mes défauts, mais prend le temps de me verbaliser les belles choses et les bonnes choses. Puis ça me fait du bien et ça édifie mon couple. Mais si moi, je prends le temps de lui dire constamment les choses qu'elle ne fait pas et que je critique, le pouvoir de la langue a une capacité destructrice. Et si on peut appliquer ça dans toutes les sphères de nos vies, dans la famille, pas juste dans le couple, mais dans la famille, avec nos enfants, entre frères et sœurs, à l'école, dans l'église, et nommez peu importe les différentes sphères dans lesquelles vous êtes, les paroles ont une capacité destructrice, comme un feu. Et Jacques va dire, c'est le monde de l'iniquité. La langue diffuse l'erreur, attise les disputes, enflamme les passions, stimule le vice et produit le crime. Ça, c'est ce que les paroles ont comme capacité de faire. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La langue a la capacité de ruiner tout notre être. Et si vous remarquez la progression, elle dit qu'elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, mais elle va aller plus loin en disant, enflammant, le cours de la vie. Est-ce qu'on réalise le poids de nos paroles? Et nos paroles, souvent, hein, si c'est du mensonge ou peu importe ce qu'on peut prodiguer de négatif, c'est nous autres les premiers infectés de ce péché-là, puis qui vit ces conséquences-là premièrement. Et ça enflamme tout le cours de notre vie. Et si mes paroles, j'en prends pas soin et je les maîtrise pas et je soumets pas mes pensées au Seigneur, ben, toutes ces sphères-là qu'on a mis tantôt peuvent influencer négativement le cours de ma vie. Elle a un pouvoir dangereux. Elle est enflammée par la Géhenne. Jésus parlait de la Géhenne, qui est le lieu, qui est la vallée du Cédron. Puis la Géhenne était une fosse profonde au sud-ouest de Jérusalem où on jetait les ordures, les déchets, les corps d'animaux morts et puis même les criminels exécutés. Et ça, c'était un feu qui brûlait continuellement. Toujours des déchets, toujours de quoi brûler. C'est un feu qui brûlait continuellement. Et Jésus, quand il prenait l'exemple du feu de la Géhenne, les gens comprenaient que c'était pas beau là, ce qu'il y avait là-dedans. Puis en plus, ça brûlait tout le temps. Ça arrêtait jamais. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que notre langue a cette capacité destructrice perpétuelle. Tu sais, les ennemis là dans les films américains, là, qu'on a l'impression qu'une fois qu'ils sont abattus, là, puis là, tout est beau, tout est réglé, ils se relèvent tout le temps. Ben c'est ça, la langue. La langue, on peut jamais dire, je vais crier victoire, je suis débarrassé, moi, avec les problèmes de la langue, je maîtrise ça facilement. Je dois continuellement, en toute occasion, dans tous les aspects de ma vie, soumettre mes pensées au Seigneur, soumettre ma langue, mes paroles, et je peux jamais crier victoire. Je peux vivre dans la victoire, par exemple, certainement. Mais est-ce que je peux dire, moi, j'en ai fini avec ma langue? Non, je peux pas dire ça. Le danger est toujours là. Le potentiel dangereux est toujours là. Et je termine avec les quelques derniers versets. Dieu veut qu'on soit maître de soi-même. Il veut qu'on ait un contrôle sur notre langue. Mais un troisième avertissement qu'on doit comprendre, ce que Dieu va nous dire, c'est que sans Dieu, la langue est indomptable. Dans le passé, les chiens, par exemple, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on parle des chiens, là, c'est pratiquement des loups. Tu sais, c'était indomptable. Puis maintenant, plusieurs parmi nous, là, on a des chiens dans la maison. Ils sont pas dangereux parce qu'on les a domptés, parce qu'on les a dressés. On a vu même des gens dresser des lions, dompter des lions, dompter par exemple des tigres, des éléphants, des killer whales, des cachalots, peu importe, là, les grosses baleines noires et rouges, noires et blanches. Les killer whales, c'est des animaux dangereux, hein. Je sais pas, là, je n'ai jamais dompté, là. Mais, peu importe, les animaux qu'on peut nommer, hein, on peut dire en tant qu'homme qu'on a vraiment usé de ce que Dieu nous disait de dominer sur toute la nature. Mais il y a une chose sur laquelle que Dieu nous dit qu'on domine pas, c'est notre langue. Il faut la soumettre à Dieu. Il faut la donner à Dieu. Il faut soumettre nos pensées à lui. On va terminer les quelques versets qui dit à partir du verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères ou mes sœurs, peut-il produire des oliviers ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voyez-vous qu'il y a une suite logique que la nature nous communique? La suite logique de ça, c'est que la foi authentique, c'est la même chose. Si je suis un croyant puis j'ai une foi authentique, il devrait y avoir de la cohérence avec mes paroles, avec mes pensées, puis ce que je dis être que d'appartenir à Dieu. Notre langue est indomptable. Je vais passer par-dessus plusieurs textes que j'aurais pu vous citer. Là, je vais juste vous les donner si vous voulez les écrire. Psaume 141, 3 et 4. Ou Éphésiens 4, 29 nous dit aussi de ne pas dire de paroles blessantes, de ne pas laisser ces paroles franchir nos lèvres. Colossiens 4, 6 dit que votre parole soit toujours empreinte de grâce de Dieu, pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun. Ça, c'est ce que Dieu s'attend de nos paroles. C'est le contrôle que Dieu veut exercer sur nos paroles, sur nos pensées, sur notre personne. Je peux pas. Je vais donner le même exemple que Jacques, OK? Ça punche un petit peu des fois ce que Jacques dit, là. Je peux pas venir le dimanche matin et bénir Dieu. Puis louer Dieu. Alors, je peux, là, mais laissez-moi compléter. Je peux venir à l'église, puis bénir Dieu, puis louer Dieu, puis dire des bonnes choses, puis le glorifier, puis l'adorer, puis de vivre cette cohérence-là, puis de le lundi matin, de maudire l'homme ou la femme qui est faite à l'image de Dieu. Je peux pas être incohérent comme ça si je suis un croyant. Si je donne le contrôle de mes paroles à Dieu, il y a une cohérence qui doit se faire. Si je viens le dimanche matin bénir Dieu, c'est parce que de façon cohérente, le lundi matin, je vais continuer de bénir l'homme et la femme qui est faite à l'image de Dieu. C'est ce que Jacques vient de dire, hein? Il n'en faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Un avertissement très solennel en disant, on peut pas bénir Dieu puis maudire l'homme à son image. Ça marche pas. Et Jean, il va dire la même chose, hein? Il va dire, tu dis aimer Dieu que tu vois pas, mais t'haïs ton frère que tu vois. Problème. Il y a un problème. Parce que si j'aime Dieu, la suite logique, ce qui est cohérent, c'est que j'aime mon prochain aussi. Ça veut-tu dire que ça va être sans défi, sans effort? Non, c'est pas ça que ça veut dire non plus. Mais je vais vivre ma foi authentique d'une façon cohérente et je vais soumettre ce contrôle-là à Dieu. Un croyant à la foi authentique produira des bonnes paroles. La source d'eau donne pas de l'eau salée puis de l'eau amère. Elle va donner l'une ou l'autre. Le figuier va donner des figues. La vigne va donner des raisins. les croyants à la foi authentique vont donner des paroles édifiantes. Ce qui sort de ma bouche est une véritable indication de ce que j'ai à l'intérieur. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Notre langue indomptable est un rappel constant de la puissance du péché en nous, de notre impuissance à nous guérir nous-mêmes, ainsi que notre continuel besoin de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, pour nous purifier et nous permettre de persévérer dans la fidélité envers lui, de se soumettre à Dieu, de dépendre de lui, de pas crier victoire sur la langue, mais de vivre dans la victoire dans nos paroles. La faiblesse même de notre langue rend notre besoin plus évident. Et puis Jacques, avec ses avertissements, que la langue peut diriger toute notre être, que la langue a la capacité de tout ruiner, puis que la langue, elle est indomptable par nous-mêmes, mais tous ces avertissements-là devraient nous conduire vers notre besoin de Dieu. Dire « Dieu, je suis pas capable ». Savez-vous ce que Dieu fait quand on dit, on va à lui puis qu'on dit « Dieu, je suis pas capable ». C'est là que la grâce de Dieu commence. Quand j'arrive à Dieu pour être sauvé puis je lui dis « Dieu, je suis pas capable de me sauver par mes œuvres, par mes propres capacités », mais Dieu me donne sa grâce et je suis sauvé. Si je dis « j'ai pas capable d'avoir le contrôle sur ma vie, sur mes paroles et je réalise tout le mal qui s'est créé autour de moi, je réalise le cours enflammé de ma vie, je réalise le feu qui est pris », confesse-le à Dieu, puis dis à Dieu, j'ai besoin de ton aide. Puis soumets-lui ton être, ta parole, tes pensées. Il suffit de dire ici qu'une langue soumise au Seigneur et un enseignement consacré, pour faire la suite avec le verset 1, clairement, à la diffusion de sa vérité et de son amour dans l'Église tout entière et dans le monde, doit avoir une puissance aussi bénéfique et restauratrice qu'une langue pervertie peut être destructrice. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Si par ma langue, je peux malheureusement détruire, étant soumis au Seigneur, je peux construire, je peux faire de belles choses, je peux bénir Dieu, je peux encourager mon frère et ma sœur, et je peux faire de belles choses. La vie est au pouvoir de notre langue aussi. Terminons en priant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que tu n'as pas cherché à nous cacher des choses qui pouvaient nous faire mal. Tu nous as donné des avertissements clairs en ce qui concerne nos paroles, nos pensées. Et on réalise notre grand besoin de toi, notre grand besoin de dépendre de toi, de placer nos vies sous ta main pour que toi, tu contrôles notre langue. On réalise ce matin, Seigneur, que notre langue peut diriger négativement notre vie. Notre langue peut tout détruire. Notre langue, elle est indomptable. Si nous, on n'est pas capable, Dieu, toi, tu es capable. Et on veut se soumettre à toi. Et oui, on veut avoir la maîtrise de notre personne. Oui, on veut être ces hommes parfaits, comme Jacques y dit. C'est-à-dire qu'on contrôle notre être parce qu'on dépend de toi. Viens-nous en aide, Seigneur. Et dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.